À 8h moins le quart, la main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On va parler de lumière et de pollution nocturne. Dans 15 jours, ce sera Noël. Les rues seront illuminées par des milliers de guirlandes.
Et c'est heureux car Noël est une fête. Il n'est pas question en cette période de l'année de parler donc de pollution lumineuse, ce qui n'est pas le cas le reste de l'année. Toujours est-il que l'éclairage public a transformé notre quotidien et pas seulement. Il est par exemple devenu difficile d'observer le ciel et distinguer nettement les étoiles. Pour les humains, ce n'est pas trop gênant. Pour certains animaux, c'est bien plus problématique, comme chez certains oiseaux migrateurs qui se repèrent justement avec les étoiles. Que dire aussi des insectes qui tournoient la nuit autour des réverbères et qui meurent brûlés ou qui perturbent leurs prédateurs comme les chauves-souris.
Mais les plantes aussi sont perturbées par les éclairages?
C'est incontestable. Dans la journée, la plante a besoin de soleil et de gaz carbonique pour assurer la photosynthèse. Pour simplifier, la plante absorbe du CO2 et produit de l'oxygène. La nuit, il n'y a pas de soleil et la photosynthèse s'interrompt. Mais la plante, elle, continue de respirer car oui, les végétaux respirent et pour se faire, comme chez les humains, absorbent de l'oxygène et rejettent du gaz carbonique. Ces échanges gazeux dus à la photosynthèse et à la respiration sont ainsi complémentaires et indispensables à l'équilibre de la plante.
Cela dit, beaucoup de fleurs se ferment le soir.
Oui, elles le font pour éviter que des insectes sans intérêt pour leur reproduction viennent profiter de leurs semences. Elles préservent ainsi le précieux pollen. Dans ce cas précis, il n'est peut-être pas possible de dire que les plantes se reposent, mais ce qui est sûr est que les plantes s'adaptent à leur environnement et distinguent clairement le jour et la nuit.
Vous venez de dire que les plantes, les végétaux respirent. Est-ce qu'on peut dire aussi que les plantes, comme les humains d'ailleurs, dorment?
Eh bien, de très sérieux scientifiques américains se sont posé la question et pour y répondre, ils ont observé avec soin le Betula pendula. Le Betula pendula, c'est l'un des bouleaux les plus communs de notre jardin.
Est-ce qu'ils ont observé le baraton quand il dort aussi? Ça a donné l'objet lieu à une étude?
Oui, ce n'est pas terminé parce que les résultats sont assez étonnants. Alors, toujours est-il qu'à propos du Betula européen, Là, ils ont observé, comment dire, des modifications dans son apparence nocturne. Alors Eric, ou vous-même Patricia, quand vous dormez, vos bras et vos jambes ne réagissent plus, votre corps tout entier se relâche. Eh bien, il s'avère qu'il en serait de même avec le bouleau, et sitôt la nuit venue, son branchage et son feuillage s'affaisseraient, et ce, de manière très distincte. Pour être précis, les chercheurs ont constaté avec leurs yeux, bien sûr, mais aussi avec du matériel à visée laser, que l'inclinaison des branches vers le sol pouvait atteindre 10 cm, ce n'est pas rien. Alors pour expliquer ce phénomène, les scientifiques mettent en avant que l'absence de photosynthèse de la nuit, on y revient, modifie la quantité et la pression de l'eau dans les tissus de la plante, un peu comme notre cœur qui, battant moins vite quand nous dormons, modifie là aussi notre flux sanguin, ce qui fait baisser notre tension. On découvre aujourd'hui que les arbres dorment et qu'à trop éclairer nos rues la nuit, ils risquent de vraiment en souffrir. Parler de pollution lumineuse n'est donc en rien exagéré, ni pour les hommes, ni pour les bêtes, ni même pour les plantes.
Ce sont des observations qui ont été faites sur l'arbre, le bouleau.
Oui, le bouleau, le Betula pendula, parce qu'il a un port relativement souple. Effectivement, un chêne a des bords beaucoup plus rigides, il est beaucoup plus difficile de les observer. L'occasion de rappeler également que la pollution nocturne concerne moins les plantes en hiver. Ceux-ci sont en repos végétatif, mais il est vrai que, à trop perturber par l'éclairage les plantes la nuit, on transforme leur cycle de vie. Observez par exemple les arbres qui vivent près d'un réverbère, et bien souvent ils se mettent en feuilles plus tôt dans l'année et perdent leurs feuilles plus tard en hiver.
Il y a aussi ceux qui se relâchent au boulot, mais ça c'est
j'en connais beaucoup.
Une autre histoire.
Et j'ai des noms.
Vos conseils, Alain Baraton, aux auditeurs de France Inter. Chloé vous dit qu'elle a trouvé des kits de mycélium de champignons de type pleurote à vendre sur internet. Est-il possible de faire pousser des champignons dans mon jardin? Et si oui, quelles sont vos recommandations pour une bonne culture?
Ça, c'est assez extraordinaire. Effectivement, on vend des kits. Maintenant, tout est prêt. Il vous suffit souvent de percer le plastique qui entoure le petit emballage. Et puis, vous avez des pleurotes qui apparaissent en quantité intéressante et vous les cuisinez. C'est amusant. Ça peut être l'occasion d'un joli cadeau de Noël. Il faut simplement placer dans une maison, quand c'est dans une maison, eh bien, le kit dans une pièce fraîche. Généralement, c'est 12 à 20 degrés. Les champignons détestent les températures trop élevées, du moins les plus hautes. Et puis attention, jamais, jamais de soleil direct. Donc vous respectez ces conditions de culture et vous pouvez, dans votre jardin ou dans votre cuisine, avoir des plus hautes. Le drame des kits de champignons, c'est qu'on ne trouve pas encore ni les morilles, ni les truffes. Et c'est navrant.
Et c'est tant mieux. Olga vous dit qu'elle a des thuyas malades. Et donc elle a suivi le conseil d'un paysan qui lui avait suggéré d'arroser le branchage avec un jet puissant. Et puis de secouer très fort et de ramasser tout ce qui est tombé. Grâce à lui, cela dit, ces thuyas ont été sauvés. C'est une bonne solution.
La sagesse paysanne est souvent avérée, mais n'est pas toujours suffisante. J'ai souvent dit que cette technique d'arrosage du branchage avec un jet violent permettait effectivement d'éloigner durablement les araignées rouges, les papillons comme les pyrales ou comme les mineuses. Quantité de petites bestioles, pourquoi pas. Mais quand le thuya est par exemple victime du bupreste, c'est un insecte xylophage, ou plutôt les larves sont xylophages, et elles vivent dans le bois. Comment faire pour que vous arriviez à les évacuer? Vous n'y arriverez pas. Mais effectivement, évacuer par la pression de l'eau quantité d'indésirables et ensuite, eh bien, faire en sorte que la plante ne les retrouve pas est une solution pour éviter les traitements.
Sophie, elle voudrait tailler ses tilleuls pour faire un alignement. Est-ce qu'on peut faire ça plutôt en hiver ou est-ce qu'il faut attendre le printemps?
Il y a deux écoles qui se sont toujours opposées. Ce que l'on appelle la taille sur bois sec, donc en hiver, et d'autres sur bois vert. Moi, j'ai une tendance à préférer au printemps, parce que je pense que la coupe, j'en suis même sûr, est une blessure infligée au végétal, et au printemps, il a repris vie, donc il va cicatriser plus vite. Donc, au printemps.
C'est noté. André vous demande, est-ce que l'euphorbe éloigne vraiment les taupes?
L'euphorbe, c'est une plante connue de tous les jardiniers qui aurait des vertus, effectivement, de tenir à distance ces petits mammifères souterrains. Faudra qu'on parle ensemble de la taupe, Eric, j'ai des choses extraordinaire à vous apprendre.
On fera une émission sur la taupe.
Ah oui, à vous apprendre. À Versailles, nous avions une pépinière régulièrement visitée par les taupes. Alors on a décidé de l'entourer d'un alignement de forbes. On s'est dit, nous sommes tranquilles. Les taupes, aujourd'hui, en rigolent encore.
Donc ça marche pas.
Ça ne marche absolument pas.
Votre conseil lecture pour le week-end?
Un joli conseil de Snejana Gerbeau, une femme délicieuse qui sait écrire et photographier. Mon jardin en hiver, créer des couleurs, jouer avec les textures, composer les ambiances. C'est pour avoir un beau jardin en hiver. C'est publié chez Delachaux et Niestlé. C'est un très bel ouvrage.
Mon jardin d'hiver, c'était une chanson écrite par Benjamin Biolay pour Henri Salvador.
Tout à fait.
Merci Alain Baraton, il est 7h52.